Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à toutes et à tous, on est mercredi, on va parler de Mercato. Bienvenue dans Mercredi Mercato, votre émission qui ne dure plus seulement l'espace de quelques semaines durant l'été. C'est toute l'année, tous les mercredis, on se retrouvera pour parler de tous les sujets liés au Mercato. Et pour cette émission New Look que vous pouvez retrouver en podcast et en vidéo sur eurosport.fr, je partage la scène avec Arthur Merle, que je suis très heureux de retrouver. Comment ça va, Arthur ?
Bah, ça va très bien. Ça va très bien, Julien. Mercredi, c'est le jour des enfants. C'est aussi le jour du mercato maintenant. Donc, très content de lancer cette première New Look hors période mercato avec toi.
Arthur, on a quand même, même si le mercato est terminé, on a quand même une belle émission, un beau programme devant nous. On va commencer avec le sommaire. On parlera tout d'abord du cas Mbappé avec cette information sortie par l'équipe mardi, hier, sur les détails de son contrat, de sa prolongation de contrat, qui finalement ne durera pas jusqu'en 2025, mais bien jusqu'en 2024, et plus si affinité, on en discutera, et on verra que pour le PSG, il y a d'autres problèmes qui arrivent.
Ensuite, on va enchaîner avec N'Golo Kanté. Kanté qui avait une proposition de prolongation de contrat sous l'ancienne direction Abramovic, qui en a une nouvelle dans les mains. A priori, elle ne lui convient pas, selon The Athletic. On va voir ce qui pourrait se passer à l'avenir, dans les prochaines semaines, pour le milieu de terrain français.
Et enfin, en troisième partie, on parlera d'Arda Güler. C'est l'objet d'une nouvelle rubrique que vous retrouverez de temps en temps sur cette nouvelle émission. L'opportunité de la semaine, c'est un joueur méconnu qui est sur le marché ou qui représente une belle opportunité sur le marché. C'est un joueur de Fenerbahçe qu'on pourrait retrouver notamment demain face à Rennes. Voilà pour le programme. On n'oublie pas évidemment le Merca Quiz en fin d'émission. C'est l'une de vos rubriques préférées. La nôtre aussi, on ne va pas se mentir.
Clairement.
Avec Quentin Guichard, qu'on remercie pour tous ces petits visuels que vous voyez sur eurosport.fr. Et on rappelle évidemment que vous retrouvez ce podcast sur toutes les bonnes plateformes. N'hésitez pas à nous noter, à nous mettre 4-5 étoiles et à venir nous voir sur les réseaux sociaux pour nous proposer des sujets, pour échanger avec nous, tout simplement. Arthur, on se lance avec Mbappé, qui est finalement un symbole de l'été et des étés agités que le PSG s'apprête à vivre dans les saisons à venir.
Exactement. Kylian Mbappé, on rappelle la situation. On pensait qu'il avait prolongé pour 3 saisons l'été dernier avec le PSG. Finalement, l'équipe nous apprend cette semaine que c'est pour 2 saisons plus une en option. On se retrouve donc dans la situation suivante. Si Mbappé ne donne pas des signaux clairs qu'il veut prolonger de nouveau son contrat l'été prochain, eh bien la question de son départ va de nouveau se poser parce que Paris ne voudra évidemment pas perdre un tel joueur libre. C'est déjà la question qui s'était posée l'été dernier. Ça pose donc problème du côté du PSG, déjà, on a envie de dire, surtout qu'il y a potentiellement d'autres joueurs qui seront dans la même situation que lui.
Oui, parce que des fins de contrat au PSG en 2024, il y en aura beaucoup. On vous a fait une petite liste des joueurs dont le contrat arrive à échéance en 2024. Keylor Navas, Sergio Rico, Alexandre Letellier, donc 3 des 4 gardiens du PSG. Marquinhos aussi, Kimpembe, El Shadal Bichuabou, Marco Verratti, Pablo Sarabia et, on l'a dit, Kylian Mbappé. Ça fait beaucoup. Pour revenir spécifiquement sur le cas Mbappé, on peut aussi se dire que le PSG n'avait pas vraiment le choix parce que, on l'avait bien compris dès le début, Mbappé a voulu prendre son destin en main, a voulu le garder et que finalement, ce contrat-là lui permet d'avoir une liberté totale sur ses choix à venir et surtout à court terme. Si le PSG voulait conserver Kylian Mbappé, il fallait faire des concessions et accepter ce contrat, Arthur.
Oui, clairement. Le PSG était sous la pression du Real, de l'offre du Real, sous la pression de son joueur. Et puis, on a tous clairement compris que finalement, peu importe les termes du contrat, en se mettant dans la tête de Mbappé, c'était une prolongation de court terme. On sait que Mbappé, on n'est pas devin, mais on le devine quand même, qu'il ne va pas passer 5 ans encore à Paris. On sait que l'objectif à court terme, c'est de remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Donc soit ça se passe très bien, il remporte la Ligue des Champions et derrière, il pourra tranquillement enchaîner sur un nouveau projet. Soit ça se passe mal et là, on peut se dire que ça sera un peu la goutte de trop et qu'il voudra forcer de nouveau un départ. Il y a d'autres problèmes au PSG. On a évoqué 2024, mais en fait, il y a encore plus urgent, c'est-à-dire 2023, l'été prochain. Avec les cas Sergio Ramos et Lionel Messi, ce sont les deux joueurs, et pas des moindres, dont les contrats arrivent à expiration l'été prochain. Ça aussi, ça va poser problème, en particulier pour une chose, c'est qu'il y aura la Coupe du Monde au milieu. Donc Paris, globalement, ne va pas pouvoir négocier avec ces joueurs-là avant le mois de janvier, en particulier pour Lionel Messi, qui lui va disputer la Coupe du Monde, et qui a d'ores et déjà fait comprendre, on l'a vu dans la presse, qu'il ne voudrait de toute façon pas entendre parler de discussion pour une prolongation avant le retour de la Coupe du Monde.
Oui, c'est logique parce que là, on juge que c'est trop tôt. Sauf que le problème, c'est que pendant la Coupe du Monde, on ne négocie pas des contrats pour la simple et bonne raison que les joueurs se focalisent sur le Mondial. Donc, on arrive rapidement à janvier et à partir de janvier, Messi sera libre de discuter avec qui il veut. Sergio Ramos également. Deux choses quand même. Sergio Ramos, ça s'ajoute au problème défensif du PSG. Le PSG est déjà... a déjà beaucoup de manques sur ce secteur-là. On commence à le voir avec la blessure de Kimpembe. On a aussi vu justement que Kimpembe Marquinhos avait un contrat qui expire en 2024. Donc globalement, ce secteur-là risque d'être le problème majeur, en plus du problème de Kylian Mbappé. Mais globalement, le secteur défensif risque de poser beaucoup de problèmes à Luis Campos et la direction parisienne. Parce que quand on a vu à quel point ce fut difficile cet été de recruter des défenseurs de très très haut niveau, on se souvient du cas Skriniar notamment, on se dit que les prochains mois risquent d'être compliqués sur ce point-là. Et puis, pour nuancer tout ça, on peut aussi se dire que finalement, le PSG n'avait pas d'autre choix, c'est un peu la même conclusion que pour Mbappé. Et il y a un autre problème, c'est les prêts, tous ces joueurs qui sont partis en prêt cet été, qui vont revenir en fin de saison prochaine. On vous a fait un petit tableau là aussi, il y a des joueurs qui sont partis avec option d'achat, Abdou Diallo, Wijnaldum, Leandro Paredes, Ander Herrera. Pour ces deux derniers, on peut penser qu'ils ne reviendront pas au PSG si ça se passe bien. Il y a aussi des joueurs qui ont été prêtés sans option d'achat, Mauro Icardi, Draxler, Kurzawa et Dagba. Icardi, Draxler, ce sont de très très gros salaires. Et finalement, Paris prend en compte une large partie de leur salaire. Et donc, ce sont des problèmes qui vont revenir aussi en 2023.
Ouais, on avait l'exemple, on en parlait avant l'émission, de Julian Draxler, 6,75 millions d'euros par an. Paris en prend 6 millions en charge.
Icardi.
Icardi, j'inverse avec Draxler. Donc c'est sûr que c'est un gros problème et tous ces joueurs vont revenir. On avait aussi l'option d'achat sur Wijnaldum qui s'est blessé. Globalement, l'option d'achat, elle tombe à l'eau. Donc effectivement, on aura... au-delà des fins de contrat, les retours de joueurs dont il faudra gérer la suite, donc l'été prochain.
Est-ce que c'est un reproche qu'on peut faire à la direction parisienne? On pense notamment à Antero Henrique qui était chargé de toutes ces ventes, de tous ces départs, selon toi?
Difficile, parce que finalement, le mercato du PSG, il était très animé. Campos et Henrique, ils ont eu assez peu de temps. En été, c'est court pour travailler. Ça a été très animé dans le sens des arrivées aussi, à un tel point qu'ils n'ont pas pu réaliser l'été parfait, hein, d'ailleurs, au niveau des arrivées. On parlait de la défense tout à l'heure. Donc, c'est difficile de leur reprocher de ne pas avoir tout géré absolument parfaitement. Il y avait besoin de faire des choix à court terme. Même si ce n'était pas avantageux financièrement ou d'un point de vue contractuel pour le Paris Saint-Germain, il y avait besoin de libérer cet effectif pour que Christophe Galtier ait sous sa responsabilité un effectif, j'allais dire restreint, pas tant que ça, parce qu'il y a plusieurs compétitions à jouer, mais un effectif qui peut faire tourner régulièrement en contentant globalement tout le monde.
Et puis on a beaucoup critiqué les prêts d'Icardi et Draxler parce que le PSG prend entre 80 et 90% du salaire. On peut aussi se dire que finalement, c'était la meilleure solution possible parce que vendre ces joueurs-là avec la cote qu'ils avaient et surtout avec le salaire qu'ils avaient, c'était quasiment impossible et que finalement, se donner une chance quelque part de les relancer, de les revaloriser, c'est mieux que finalement de les payer, de les conserver dans un effectif où ils n'auraient absolument aucun rôle à jouer. On a fait le tour ?
On est bon, je crois, sur le PSG.
On va passer à un autre joueur de l'équipe de France qui lui aussi est en fin de contrat en 2023. C'est N'Golo Kanté, le milieu de terrain de Chelsea qui, selon nos confrères de The Athletic, est un petit peu dans une impasse. Pourquoi ? Parce qu'avant que Chelsea change de propriétaire, le milieu de terrain avait trouvé un accord avec la direction d'Abramovich pour une prolongation de contrat de 3 saisons, avec une en option. Le changement de direction a finalement remis à zéro les compteurs et Todd Boehly, le clan Todd Boehly, n'offrirait plus qu'un contrat de 2 ans avec une en option au milieu de terrain. Et Kanté, lui, ne se voit pas prolongé pour un contrat aussi court. On rappelle qu'il a 31 ans. On n'est pas tout à fait dans le même cas, là, Arthur, qu'un Kylian Mbappé ou que d'autres grands joueurs qui, eux, ont tout leur destin en main.
Non, on n'est pas tout à fait dans le même cas parce que Kanté a 31 ans, tu viens de le dire. Donc, même si on a de plus en plus d'exemples ces dernières années de joueurs qui atteignent leur prime et qui sont encore au top niveau à 34, 35, 36 ans, globalement, l'âge compte quand même sur le marché des transferts. Il y a aussi son état physique. N'Golo Kanté, c'est un joueur qui enchaîne beaucoup les pépins physiques depuis 3 saisons. On vous a fait un petit tableau là aussi avec le nombre de matchs qu'il a manqué sur blessure. Il y en a 58 depuis la saison 2019-2020. C'est évidemment très important, beaucoup de pépins musculaires. Après, je ne suis pas spécialement inquiet pour N'Golo Kanté dans les deux cas de figure. Parce que prolonger, c'est encore possible. The Athletic nous raconte que Kanté aime beaucoup le club, que le club aime beaucoup Kanté. Et globalement, il n'y a pas tant d'écart entre les deux offres. Il y a une saison d'écart. Je pense que s'il reste aux mêmes conditions salariales, ce sera pas terrible pour Kanté. Enfin, ce ne sera pas une mauvaise solution pour Kanté que de prolonger l'aventure, même pour 2 ou 3 saisons. Et s'il part, eh bien là, il ne manquera pas de courtisans. Encore une fois, The Athletic nous parle de clubs anglais intéressés, un club allemand, un club espagnol, un club français, donc potentiellement le PSG. Donc là, il aura des possibilités. Et pour lui, c'est même presque mieux de partir en tant que joueur libre, parce qu'on en revient à ce qu'on disait juste avant. Là, sa valeur marchande, elle est à 40 millions d'euros, selon Transfermarkt. Si vous êtes un club, je me mets dans la position d'un club acheteur, 40 millions d'euros pour un joueur de 31 ans qui se blesse souvent, c'est trop. Par contre, venir faire un effort salarial, et une prime à la signature pour un joueur de son talent, même à 31 ans, bon, il aura beaucoup plus de possibilités.
Le salaire peut quand même être un vrai obstacle pour l'avenir d'N'Golo Kanté, parce que finalement, il perçoit encore aujourd'hui le salaire qu'il avait négocié en 2018 au moment du pic de sa carrière, parce qu'il avait évidemment eu ce titre en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Il était l'un des meilleurs milieux de terrain du monde, si ce n'est le meilleur. Et donc, il est aujourd'hui le deuxième plus gros salaire du vestiaire de Chelsea, derrière Lukaku. Il touche, selon la presse anglaise, 17 millions d'euros. Là, on est quand même sur un vrai obstacle, d'autant que depuis, il y a eu la pandémie, qu'on a quand même eu affaire à un vrai tassement des salaires et que même des clubs anglais aujourd'hui ont un petit peu plus de mal à pratiquer ce genre de salaire, surtout, tu l'as dit, pour des joueurs de son âge, 31 ans, et peu fiables physiquement comme N'Golo Kanté ces dernières années.
Moi, c'est plus sur ce dernier point que je suis inquiet, c'est comment les clubs vont évaluer la fiabilité de N'Golo Kanté plus que sur son salaire, parce qu'on a encore vu des clubs anglais faire des folies, alors plus en indemnité de transfert qu'en salaire, mais les clubs anglais ont toujours de la marge financièrement, c'est plus sur la fiabilité, parce qu'il y a aussi l'équipe de France. Évidemment, s'il rate des matchs à Chelsea, c'est qu'il en rate en équipe de France. Il a raté des rassemblements dernièrement, il fait plus partie des joueurs qu'on voit à chaque rassemblement avec les Bleus, donc ça peut être problématique de se dire qu'un joueur qui peut être si précieux va être recruté pour finalement peut-être ne pas tant jouer que ça, parce que si vous faites venir Kanté, c'est pas pour avoir des concurrents énormes à ses côtés, c'est pour l'installer comme titulaire indiscutable.
Donc finalement, il a un tournant de sa carrière.
Ah, clairement, un tournant avec Chelsea, comme en équipe de France d'ailleurs, avec la Coupe du Monde qui approche à grands pas.
Voilà pour ce deuxième sujet. On va passer au troisième sujet avec Arda Güler, un jeune joueur de Fenerbahçe qu'on espère voir demain en Ligue Europa. Face à Rennes qui joue à 21h face au club turc. Alors Arda Güler, c'est Arthur, l'un de ces joueurs qui incarne le mieux finalement cette nouvelle génération de jeunes joueurs turcs très talentueuses et qui, lui il est encore un plus jeune hein, parce qu'il a 17 ans, c'est un milieu de terrain, il est gaucher et qui vraiment est impressionnant sur ce qu'on a pu voir nous de ce joueur.
Oui, alors on ne va pas vous raconter de salade. On n'a pas regardé tous les matchs en jeune de Güler. On n'a pas regardé tous ces matchs avec Fenerbahçe, mais les quelques images qu'on a vues, Ça vous donne une idée du potentiel du joueur. Voilà, un gaucher avec une très belle patte gauche. Je pense que c'est un gaucher assez exclusif, mais très belle patte gauche, capable de se déplacer sur toute la largeur. Hein. Je pense qu'il est très polyvalent, milieu offensif, ailier, je pense qu'il n'y a pas de souci pour lui. Voilà, un joueur qui a des belles stats aussi, mine de rien. Il a 3 buts et 3 passes en 12 apparitions la saison dernière avec Fenerbahçe. Et cette saison, il a joué 2 matchs de championnat pour 2 buts. Il a mis un doublé après une entrée en jeu en 20 minutes, dont un but assez exceptionnel. Donc voilà, ces statistiques, elles se retrouvent même chez les jeunes. Il est international U17, il a déjà 4 buts en 10 matchs avec les jeunes en Turquie. Donc un joueur qui, en plus de rayonner dans le jeu, est là dans la finition, donc très intéressant.
Alors pour bien comprendre la dimension de ce joueur, on va discuter de sa situation contractuelle, parce que c'est quand même presque une affaire d'État en Turquie. Pourquoi ? Parce que ce joueur, il a une clause libératoire à 30 millions d'euros. On a entendu au début d'été plusieurs grands clubs européens qui s'étaient intéressés à lui, notamment le Paris Saint-Germain. Il a une clause à 30 millions d'euros, mais s'il joue moins de 1500 minutes cette saison, il sera disponible pour 5 millions d'euros à la fin de la saison. C'est pour ça que c'est notre opportunité de la semaine, parce que c'est un joueur talentueux et qui pourrait finalement être très peu cher l'été prochain. Et il se trouve qu'en début de saison, son entraîneur, Jorge Jesus, l'a assez peu fait jouer, ce qui ne plaît pas beaucoup au président du club de Fenerbahçe, parce que, évidemment, lui, il voit à la fois l'intérêt sportif, il voit aussi l'intérêt financier d'un joueur qui pourrait théoriquement se vendre à 30 millions d'euros et qui finalement pourrait partir pour beaucoup moins cher. On disait que c'est l'un des joueurs qui incarne la nouvelle génération turque. On peut citer d'autres joueurs. Alemdar, le gardien de Rennes qu'on a vu de temps en temps, même en début de saison, en Ligue 1. On peut citer Koksu aussi, qui est un joueur qui fait des merveilles aux Pays-Bas avec Feyenoord. Et puis Emre Demir, souvenez-vous, on en avait parlé l'année dernière quand il est arrivé au FC Barcelone. Donc vraiment, il y a une vraie génération de joueurs talentueux en Turquie. Il y a aussi, Arthur, des limites avec les joueurs qui évoluent en Turquie.
Ouais, on ne va pas s'emballer trop vite, parce que des exemples de jeunes joueurs turcs très prometteurs qui ont eu du mal à confirmer en Europe, on en a pas mal. On en a pris 3. Il y a Youssouf Yazici, qui a fait des débuts intéressants avec le LOSC, mais ça s'est vite estompé. La saison dernière, il est reparti en prêt. Il est revenu, alors il a fait quelques stats en début de saison, mais derrière, il a de nouveau quitté le LOSC. Il y a aussi Enes Unal, qui appartenait à Manchester City, qui s'est jamais imposé à City, il a enchaîné les prêts, avant d'entamer une carrière qu'on va qualifier de modeste en Liga. Il enchaîne un petit peu les clubs, Villarreal, Getafe. Et puis on a aussi Cengiz Under, alors peut-être dans une moindre mesure. Parmi les 3, c'est peut-être celui qui réussit le plus en Europe. Passé par la Roma, aujourd'hui à l'OM, même s'il est moins dans les plans d'Igor Tudor, il a montré des choses intéressantes.
Il y a quand même beaucoup d'irrégularités, qui est finalement un point commun à ces 3 joueurs.
Exactement, c'est le point commun de ces 3 joueurs-là. Donc c'est pour ça qu'on va tempérer un petit peu notre propos sur Güler. Il n'a que 17 ans, on attend de voir, il faut qu'il confirme. Et puis mine de rien, 1500 minutes, on a calculé la moyenne sur une saison de championnat à 38 matchs, ça fait 40 minutes par match. Pour un joueur de 17 ans, c'est pas mal déjà, je trouve. Donc effectivement,
c'est déjà plus qu'Antoine Griezmann avec la
vie. Oui, exactement. Donc effectivement, on comprend que ça puisse poser problème entre la vision de son entraîneur et celle de son président.
Voilà, on espère en tout cas le voir face à Rennes, voir l'étendue de son talent. Et en parlant de talent, on va accueillir dans cette émission un autre homme extrêmement talentueux. C'est Quentin Guichard pour notre rubrique fétiche, le Merca Quiz. Quentin, bienvenue. Nous sommes très heureux de te retrouver, parce que tu t'es pris des petites vacances estivales quand même.
Alors des petites vacances, ouais. Et comme tu peux le voir, j'ai le teint un petit peu hâlé.
Ouais, non, on le voit pas.
Trois semaines de Bretagne, ça vous change un homme.
Ça se voit.
Voilà. Les fameuses huîtres Oléron qui...
Voilà. Voilà, ok, d'accord. On peut parler de football sinon?
Bah comme tu veux, parce que sinon les huîtres, effectivement, c'est un super sujet de...
Non. Est-ce que tu peux commencer par nous rappeler les règles, s'il te plaît?
Oui, parce que si je suis ici, c'est pas pour parler cuisine, c'est pour le Merca Quiz. Le Merca Quiz, je vous rappelle les règles. Je vais énoncer la carrière d'un joueur, son parcours, avec des petits indices éparpillés par-ci, par-là. Et le premier de vous deux qui trouve l'identité de ce joueur marque un point, bien sûr. Et puis à la fin de l'année, on fera les comptes et le grand gagnant de l'année.
Gagne.
Gagne quoi? Je ne sais pas encore. on verra.
Je suis qu'un modeste pigiste qui interviendra de temps en temps. Si je gagne, est-ce qu'on peut dire 2 points?
Non, un demi-point.
Alors, sûrement pas. Non, sûrement pas. Peut-être moyennant argent, mais sinon, on verra. On verra. Je vous rappelle aussi la règle. la règle Pereira-Morin de la saison 2022. C'est la suggestion d'un nom avant même le premier indice. Lequel de vous deux, Arthur peut-être ?
Très sobrement, je vais aller sur un Laurent Habergel.
Oh, très joli Laurent Habergel, mais c'est pas ça. Non.
Pour moi, ça sera Islam Slimani.
Oh, joli, joli, mais c'est pas ça. Allez. C'est pas ça. Joli. Vous êtes prêts, messieurs ? La tension est à son comble. C'est parti. Je suis né près de Marseille et j'effectue toute ma formation dans le club de ma ville natale,
Wesley Fofana.
Le FC Martigues. J'y reste jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'évolue successivement au club de Gignac-Lanert, puis à Beaucaire en division d'honneur, puis dans l'équipe réserve de Troyes en CFA. Fin 2004, je rejoins l'AS Cannes qui évolue alors en National. J'y reste 2 ans et demi. En 2007, je rejoins Amiens qui évolue alors en Ligue 2. Je joue mon premier match de Ligue 2 contre Guingamp et je marque mon premier but lors des 16e de finale de Coupe de la Ligue contre Strasbourg, puis mon premier but en Ligue 2 lors du match retour face à Guingamp. En février 2009, je marque mon premier doublé lors d'un match à l'extérieur contre Brest. Je reste 2 ans à Amiens et je m'impose comme un titulaire à part entière, mais je ne peux empêcher la relégation du club à l'issue de la saison 2008-2009.
Tu nous sors toujours des joueurs qui font des relégations.
À l'été 2009, je signe à Valenciennes et découvre ainsi la Ligue 1 sous les ordres de Philippe Montagnier. En janvier 2010, j'offre 2 passes décisives contre Boulogne et marque mon premier but pour le club nordiste contre Bordeaux. Devenu titulaire.
Attends, pardon, on est en quelle année là ?
Là, on est en 2010.
J'ai un nom, mais je ne l'ai pas. Enfin, j'arrive pas à sortir.
2010.
Devenu titulaire indiscutable au sein de mon club, je figure dans la liste des 23 Algériens sélectionnés pour la Coupe du Monde 2010. Je suis titularisé pendant les 3 matchs de la Coupe du Monde contre la Slovénie, l'Angleterre et les États-Unis, laissant derrière moi une bonne impression malgré l'élimination en phase de groupe.
Attends.
Après le Mondial, je suis suivi par de bons clubs, notamment Saint-Etienne et Rennes.
Mais... T'as déjà dit son poste, excuse-moi.
Mais c'est...
Je t'ai pas écouté en fait depuis le début, tu peux recommencer.
Alors, est-ce que tu me remets...
Vas-y.
Oui, tu me remets, oui. Tu remets la personne.
Oui, Pierre.
Donc là, je fais un quiz. Voilà. On est en 2010.
Et le poste, tu l'as déjà dit ?
Non, je
crois j'ai pas dit le poste.
D'accord. Non, okay.
Juste les buts.
Après le Mondial, je suis donc suivi par de très bons clubs... Saint-Etienne et Rennes, mais finalement je prolonge mon contrat avec Valenciennes. Après ça, je me blesse au ligament croisé du genou et déclare forfait pour 6 mois. À mon retour, je marque contre Sochaux sur une tête décroisée qui ne laisse aucune chance à Teddy Richert.
Oh là là.
Je marque mon premier but avec l'Algérie contre la Centrafrique en octobre 2011 sur un centre de Karim Matmour. En janvier 2012, je marque un doublé contre Bastia lors des 16e de finale de Coupe de France.
Faut changer de club là, monsieur.
Je marque un but face à la Gambie après seulement 17 secondes de jeu, ce qui reste le but le plus rapide de l'histoire de la sélection algérienne. Ce sera mon second et dernier but en 25 sélections. Lors de la 7e journée de Ligue 1 2012-2013, je m'illustre contre Marseille lors de la victoire 4-1 de Valenciennes. Je marque un but et délivre une passe décisive.
Faut être qu'à dire ?
Oh oui, joli. Voilà. Joli, joli, joli.
Pardon. J'étais tellement...
Joli. Fouette Kadir, bien sûr.
Et j'étais sur un défenseur.
C'est la fulgurance. Fouette Kadir. Ouais,
je crois que ça s'appelle le talent.
Légende de Valenciennes.
Qui a signé à Marseille, vrai.
Juste après, ça venait. Et ensuite, de tête.
Il part en Espagne.
Avant, il joue en France.
Après Marseille ?
Ouais, il est prêté par Marseille. À Rennes.
Ah oui, exact.
Ouais,
exact.
Puis au Betis Séville, et puis après, c'est à des gringolades, quoi. Mais on l'embrasse.
On l'embrasse.
Ouais, et donc là, il est toujours en activité après son passage en Espagne. Il rejoint donc le club de son enfance et de sa ville natale, le FC Martigues, qui évolue aujourd'hui en national. Voilà. Donc,
très heureux, Quentin, de te faire revenir dans cette émission pour que tu nous donnes des nouvelles.
Nouvelles, voilà. C'est pas qu'on l'a perdu de vue, c'est juste qu'il. Voilà, pas de nouvelles, quoi.
Mais j'aimais beaucoup ce joueur en plus.
Très sympathique. Très sympathique. Ouais, très sympathique joueur.
Ça fait 3-0 pour moi.
Ah d'accord, 3-0 d'office.
Oui, parce que...
Parce qu'on reprend les comptes de l'été, d'accord.
Non, parce que je serais déjà à 10 et quelques, je crois.
D'accord. Bon, bref. Arthur, un mot ?
On n'a déjà pas fait 3 émissions ensemble.
Voilà, 3-0, donc là, ça me paraît compliqué. Bref, pourquoi, mais bon, bref.
On va pas s'attarder sur les détails.
Voilà.
Bref. Messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous rappelle que vous retrouvez ce podcast en tapant Eurosport Football Club sur toutes les plateformes de podcast. Vous retrouvez évidemment la Stream Team vendredi. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec Glenn. Merci beaucoup. Vous nous retrouvez aussi également les meilleurs moments sur Eurosport.fr. Hein, Quentin ?
Parce qu'il y en a. Il y en a des bons moments dans cette émission.
Les moins pires, on peut...
Les moins pires.
Avec des jolis visuels faits par Quentin.
Oui, voilà. Très jolis visuels.
Merci à tous, à la semaine prochaine.
Ciao.
Salut tout le monde.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.